Bonsoir tout le monde, bienvenue sur les ondes de Chiz 94.3 à l'émission Boisvert Radio. Je m'appelle Charles Boisvert et on est ensemble pour parler de sport, oui, jusqu'à 22h. Ce soir, on a un excellent plan d'émission. On a deux invités en studio, mais juste avant, je vais vous remercier là, de vos retours là, sur l'émission de la semaine passée avec Daniel Savoie. C'est une des émissions, c'est une émission qui est sortie en rediffusion vendredi, mais j'ai eu beaucoup de textos, de commentaires qui disaient « Hey, quand est-ce qu'elle sort? Quand est-ce qu'elle sort enfin l'émission? » Donc, ça a vraiment été le fun de finalement vous la rendre disponible. Donc, si vous voulez aller l'écouter, là, elle est disponible sur toutes les plateformes, là, que ce soit Spotify, Apple Podcast, de Boisvert Radio. Ce soir, je vous explique le planning de l'émission. J'ai deux invités en studio, d'abord Marianne Tremblay et Victoria Barry. Dans le fond, ces deux invités vont nous présenter leur sport et vont être collaboratrices lorsque l'autre va présenter le sien. Donc, je les introduis sans plus attendre. D'abord, à ma gauche, Marianne Tremblay. Bonsoir, Marianne.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Ben, merci de me permettre de parler de mon sport.
Ben, exactement. Tu pratiques le patin artistique synchronisé. Sport exact. Que je ne connaissais pas avant de te connaître. Donc, on va en parler dans la première moitié de l'émission et ça risque de déborder un peu sur la deuxième parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et ensuite, en face de moi, le Victoria Barry, qui est une danseuse hip-hop internationale, on va dire ça de même.
Pas encore.
Ben là, ça va être ça au mois d'août.
Oui, au mois d'août, je vais participer aux championnats mondiaux de hip-hop en Arizona.
C'est quand même... C'est
très excitant, on pourra en parler plus tard. Est-ce que mon micro est allumé? On dirait que je suis pas sûre.
Non, okay. Tout à fait, ton micro est 100% allumé. Okay, puis je peux même, je peux monter ton son si tu veux un petit peu.
Oui.
Voilà.
J'aime bien ça m'entendre parler, comme vous le savez.
Excellent. Puis d'abord, je suis content de vous avoir parce que, bon, on se connaît grâce au jeu de la communication et vous avez très bien performé dans l'épreuve radio. Donc, c'était tout à fait naturel de vous inviter, oui, à la radio. Donc, voilà.
Merci, Charles. Je tiens à dire que Boisvert Radio, c'est mon rêve de participer à cette émission.
Ah oui, puis là, hors onde, on discutait du fait que c'est Marie et Barry en soirée.
Ouais. Oui.
Parce que pendant les Jeux de la communication, nous, c'était Barry,
c'était Barry le midi.
C'était Barry le soir.
Édition spéciale.
Édition spéciale en soirée à Boisvert Radio. Les deux mondes se rencontrent et je suis extrêmement content de cette rencontre entre les deux mondes. On va commencer en parlant de patin artistique synchronisé. Parce que probablement qu'à la maison, vous savez c'est quoi le patin artistique. Vous avez vu notamment Patrick Chan ou... le patin
artistique.
Joanie Rochette, exactement. En duo, en solo, aux Jeux olympiques... justement, performé dans vos télés, puis le Canada est excellent, donc on a gagné plusieurs médailles. Mais le patin artistique synchronisé, Marianne, c'est quoi?
C'est la question que tout le monde me pose, puis c'est la question qu'on m'a toujours posée toute ma vie, puis toutes les personnes qui font du patinage synchronisé aussi vont pouvoir témoigner du fait que c'est la question qu'on reçoit le plus souvent. Souvent, les gens vont comparer ça à la nage synchronisée parce que c'est quand même facile à expliquer. Tu sais, on est 16 filles sur glace. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose que de la nage synchro. Il y a même des gens qui comparent ça à du cheerleading sur glace. Parce que dans le patinage synchronisé, on a des lifts, on a des figures, tu sais, comme construites avec, tu sais, c'est tout stratégique. Mais dans le fond, selon Patinage Canada, mettons que je vous sors une vraie définition. L'objectif du patinage synchronisé, c'est que l'équipe exécute en harmonie des cercles, des blocs, des lignes, des roues, des entrecroisements en unisson au son d'une musique avec des quarts de qualité, une puissance et une fluidité. Puis les catégories de patinage synchronisé accueillent des patineurs de tous les âges. C'est vraiment un beau sport pour ça parce qu'on peut avoir des patineurs vraiment très, très, très débutants, inexpérimentés, comme on peut avoir des patineurs de niveau presque olympique, sauf que mon sport n'est pas encore aux Olympiques.
Ouais, malheureusement.
Malheureusement, effectivement. Fait que, c'est ça, c'est une discipline d'équipe qui est jugée presque de la même façon là, que le simple ou la danse en couple ou le patinage en couple sur glace. Puis c'est jugé selon les habiletés de patinage, les transitions, la performance, la composition. Fait qu'il y a plein de critères qui rentrent dans l'évaluation là, de ce sport-là. Puis c'est une discipline vraiment magnifique là, à regarder. C'est rare que les gens restent indifférents quand ils voient du patinage synchronisé pour la première fois.
Bien, c'est sûr, là, quand tu vois 16 filles, mais j'imagine qu'il y a peut-être des gars aussi des fois, mais quand tu vois 16 personnes patiner comme ça sur la patinoire en même temps, c'est quand même, c'est un groupe, c'est imposant. Puis J'avais une question qui...
C'est vraiment impressionnant. Ouais. Puis moi, ce que je me demande tout le temps, ben quand tu m'as montré les vidéos de tes performances, Marianne, c'est que, tu sais, moi, je fais de la danse, là. Puis, tu sais, je me demande comment tu peux être synchronisé avec une surface glissante, tu sais. Comment tu fais pour calculer ta distance, pour freiner de la même manière? C'est sûr qu'il y a des collisions qui arrivent des fois, là.
Ah, ben mon Dieu, oui. Puis ça me fait penser à une histoire qui est arrivée, là. C'est comme une histoire d'horreur. C'est arrivé à une patineuse de haut niveau, là, chez les Suprêmes. On va en reparler. Je vais vous en parler de cette équipe-là. Ouais. Dans le fond, eux autres, ils faisaient une intersection. Ça s'appelle un angle, que c'est deux lignes qui arrivent à vitesse opposée. Fait que dans le fond, il y en a une qui arrive de la gauche, une de la droite. Puis ils s'entrecroisent au centre.
Oh mon Dieu,
puis
c'est dangereux.
Il y a deux filles, il y en a une qui s'est faite couper le tendon d'Achille parce qu'ils se sont rentrés dedans, puis la lame, elle a coupé.
Mais bref,
pour répondre à ta question, Victoria, dans le fond, la musique qui entre en jeu, c'est super important. C'est pour ça qu'on est capable d'être synchronisé. C'est en utilisant la musique. Mais pour chaque patineur, c'est différent. Tu sais, il y a des patineuses qui, comme moi, vont nommer les pas dans leur tête, parce que comme c'est dans le processus d'apprentissage, la choré, j'imagine, tu sais, vous en danse, vous faites comme des bruits,
deux,
des tacs,
ou...
c'est ça.
Tout petit
qui la cap, c'est ça. Il y a des gens qui comptent, il y a des gens qui chantent les. Tu sais, des fois, quand t'as des paroles, tout ça, ça peut vraiment aider. Fait que c'est des repères, des mots-clés, puis c'est ça, du timing. Fait qu'il faut sentir la musique. Fait que des fois, c'est comme difficile parce que. C'est pas tous les patineurs qui ont la même oreille musicale.
Mm-hmm. Ouais. En danse aussi, c'est la même chose.
C'est
même
ça.
Exact chose.
Fait que c'est ça.
Mais toi, quand t'as commencé à faire du patin artistique synchronisé, t'as-tu commencé, par exemple, en solo ou en duo, puis ensuite t'es allé vers le dans le fond, en équipe, là?
Ouais, exact. Ben, moi, j'ai commencé en solo. J'ai toujours détesté ça. Moi, j'étais pas capable de performer toute seule. J'étais beaucoup trop anxieuse. Puis, j'étais pas quelqu'un qui performait sous pression de cette façon-là. Ouais. J'aimais pas ça me mettre de l'avant toute seule. Fait que quand j'ai découvert le patinage synchronisé, ben, c'est là que j'ai trouvé ma voix tout de suite. Puis, c'est tellement une discipline différente du patinage artistique que c'était comme même pas comparable dans ma tête. Fait que j'ai fait du sport-études longtemps en solo pour me former en tant que patineur. Puis c'est souvent ça qui demande aussi. Il faut que tu aies une bonne formation en tant qu'athlète solo pour après ça joindre une équipe puis faire du niveau quand même intéressant en compétition. Fait que, formation seule puis après ça en synchronisé. Parce qu'un patineur pourrait pas commencer en synchronisé. Il faut que tu apprennes.
Ouais, ben c'est ça. Ben, t'es juste quand tu arrives à 4 ans, 5 ans, ben, t'as de la misère à patiner nécessairement. Donc, imagine patiner en synchronisé avec d'autres personnes. Ça, c'est un challenge supplémentaire. Puis...
Exact. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que le patinage synchronisé, ça donne une deuxième vie à beaucoup de patineurs. Tu sais, on a tellement vu des scénarios de filles qui faisaient des sauts. Puis c'est super difficile sur les articulations, sur le corps, des blessures. Il y en a tellement souvent, là, des genoux tout déchirés, des problèmes de hanches.
Quand
des problèmes
tu tombes
de
sur la glace.
Oui, c'est rough. Là. Ouais. J'ai dû me casser le coccyx une fois dans ma vie, certainement. Ben, c'est ça. Fait que les patineurs solo qui sont trop blessés pour continuer à sauter, ben souvent se recyclent dans le patinage synchronisé. Puis ça a même été longtemps une vision péjorative par rapport au patin synchro. Le fait que c'est toutes des patineuses qui peuvent plus sauter, entre guillemets, mais
c'est des
aujourd'hui,
has-been.
C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus ça. Puis on le voit de plus en plus, les gens commencent à prendre intérêt. Puis dans le fond, comment je vous expliquerais ça, c'est que dans l'histoire, là, le patinage synchronisé, c'était une discipline à part du patinage artistique. Puis là, de plus en plus, les organisations, le ISU, il englobe le patinage synchronisé dans les autres disciplines comme c'est toute une grosse famille. Puis ça n'a pas toujours été ça, fait que c'est vraiment intéressant de voir ça gagner en popularité. C'est comme cette année, au championnat du monde à Montréal, c'était une équipe de patinage synchronisé qui faisait l'ouverture des championnats du monde de solo puis en couple. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment intéressant de voir ça parce que c'est de la visibilité pour le patinage synchronisé qui n'existait pas dans le temps.
Ben oui, j'ai vu ça. C'est un article que j'ai vu en faisant mes recherches cet après-midi. Puis l'équipe dont tu parles, c'est les Suprêmes de Saint-Léonard.
Ouais, exact.
Puis justement, je voulais t'amener là-dessus parce qu'ils ont été champions du monde 3 ans de suite.
Ouais.
À quel point c'est un exploit incroyable parce que ben, Saint-Léonard, c'est au Québec. Puis j'imagine que t'as des équipes de patins artistiques synchronisés qui viennent de partout dans le monde.
Ouais, ben les Suprêmes de Saint-Léonard, là... Être triple championne du monde comme ça, ça s'est jamais vu dans l'histoire du patinage synchronisé. Puis surtout que au Canada, on est très fort, mais on a des très, très bonnes équipes. Mais 3 ans de suite comme ça, là, c'est réaliser l'improbable. On pensait pas que ça allait être fait. Puis il y a des équipes de la Finlande qui sont très, très bonnes, très, très fortes. Puis c'est un sport, je serais prête à dire que c'est pas nécessairement le sport national, mais c'est vraiment un sport de renom là-bas. Fait que qu'elles aient réussi à déplacer des montagnes comme ça, puis je dis ça un peu en blague parce que leur thème, c'est l'Everest en plus. Okay. Le programme long, c'était l'Everest. c'est du jamais vu. Puis c'est ça, une équipe d'ici, c'est vraiment une fierté. Puis c'est triste parce que on est tellement dans l'ombre. Souvent quand on parle de patients synchronisés, ouais. puis que de un, je fais mon petit speech pour expliquer aux gens c'est quoi le patient synchronisé. Ben, après ça, j'aime ça rajouter le fait que, hey, ben, on a des triples champions du monde à la maison. Mm-hmm. Fait que c'est ça, c'est magnifique. Puis tu sais, ce que j'aime aussi, c'est que les entraîneurs sont non seulement ils se perfectionne dans tellement plusieurs aspects du patinage artistique, comme Pascal Denis, qui est l'entraîneur, lui, il coach en danse, donc okay. les couples en danse. Mais Marilyn Langlois, elle aussi, dans le fond, sont comme un duo d'entraîneurs. Puis elle disait que elle avait une fierté parce qu'ils ont marqué l'histoire, mais aussi elle, c'est que ils ont des champions qui sont en répétition, mais qui ont une approche de bien-être envers l'athlète puis tout ça. Et moi, je trouve ça beau, ouais. cet aspect-là, parce que souvent, on dit du patinage artistique que c'est une discipline
très stricte. Hein?
C'est strict, puis il y a des dans l'envers du décor, il y a des choses souvent ouais. là. C'est ouais. souvent ça qu'on entend. Puis tu sais, c'est vrai. Là, des fois, j'aime ça dire aux gens que le patinage artistique, c'est comme une cathédrale. C'est super beau de l'extérieur, ouais. mais tu sais pas ce qui se passe en dedans. Puis c'est vraiment ça. Tu sais, ouais. y a des histoires, j'en ai vécu comme plein d'autres aussi patineurs. Ça,
dans les médias, là, je pense, dans les dernières années, je sais pas si c'est Patinage Canada ou d'autres institutions comme ça en patin artistique ont beaucoup été effritées par justement des scandales, puis des anciennes patineuses ou des actuelles patineuses qui sortaient puis qui dénonçaient des comportements inacceptables. Puis. Mm-hmm.
Ben, juste l'exemple des patineuses russes aux Olympiques.
Ben oui, ça, c'est complètement terrible.
Aux Olympiques, c'est ça.
Tout ce qui est dopage et tout.
Oui, c'est ça. Les histoires de dopage avec des petites filles de 14 à 16 ouais. ans. Puis, tu sais, j'ai fait des recherches sur ça parce que ça m'intéressait vraiment beaucoup. Puis c'est comme toutes les jeunes qui s'entraînent. C'est comme, il y avait une entraîneur qui était ciblée là, par la vidéo que j'avais vue. Puis... toutes ces athlètes étaient tellement surentraînés qu'à l'âge de 16 ans, quand leur corps commençait à se développer, ils brisaient. Ils étaient plus capables de ouais. performer comme ils faisaient à 14 ans. Puis c'est normal aussi là, quand tu es habitué à un haut niveau aussi
puis,
jeune.
Justement, par rapport au corps, parce que le patinage artistique de l'extérieur, c'est un, comme tu disais, c'est un beau sport. J'ai l'impression que l'apparence, c'est important dans ce sport-là. Puis je me demande si toi... en ayant grandi là-dedans, ça t'a affecté en tant que personne, cette espèce de pression-là d'être belle, d'être élégante tout le temps?
Mais mon Dieu, oui, tellement. Puis c'est drôle parce que c'est un peu ça, les sports artistiques, là, mm-hmm. l'aspect du paraître. Puis c'est sûr que ça m'a suivi toute ma vie. Mais ce qui est fou, c'est de penser à quel point on est drillé jeune pour ça. Je me rappelle, j'étais même pas dans des gros niveaux de catégorie que mon entraîneur, quand on débarquait aux arrêts d'autobus pour un arrêt pipi, il nous disait tout le temps, fallait pas qu'on soit en pyjama, fallait qu'on attache nos cheveux, fallait qu'on sorte de l'autobus puis qu'on se comporte bien parce qu'on représentait le club. Tu sais, c'est un sport jugé. Fait que ça l'a toujours...
Tout rentre en compte.
C'est ça, exactement. Tout rentre en compte. Puis ça paraît beaucoup aussi dans le... Quand t'arrives dans un aréna de compétition de passage synchronisé, toutes les équipes sont habillées pareil. Coiffés pareil, ils portent toutes les chandails avec leur logo d'équipe. Tout est beau, tout est propre, le vernis à ongles, le maquillage impeccable. Fait que c'est sûr qu'il y a un aspect perfectionniste, mais en grandissant là-dedans, pour moi, c'est une norme. Fait que de bien paraître dans mon sport, c'est même quelque chose que je me suis mis à chérir parce que je trouve ça beau de justement représenter une discipline qui est aussi belle à regarder. T'sais, les robes, là, c'est tellement beau. Puis ça a un impact quand même... sur la performance puis la prestation. T'sais, des fois, on le voit, une robe qui ressort bien sur la glace, on dirait que ça te laisse une impression différente d'une robe qui comme passe plus inaperçue. Puis cette année, justement, les Finlandaises, ils ont des maillots de danse, je pense, qu'ils font faire en adaptation de robes de patin. Là. C'est tellement plein de paillettes de haut en bas, ça doit être des heures et des heures de travail. Là.
Puis est-ce qu'il y a des points accordés à ça dans la grille de pointage?
L'apparence.
C'est du sous-entendu. Okay. Non, pas nécessairement, mais tu sais, mettons, là,
mais ça peut rentrer dans d'autres critères.
Ouais, ben c'est ça, dans les composantes de programmes qui sont évaluées, il y a les compétences de patinage, les transitions, il y a la performance, il y a l'interprétation. Fait que tu sais, tout ce qui est comme dans la performance, là,
ça pourrait rentrer là-dedans, mais c'est comme du non-dit. Là.
Mais c'est ça, mais tu sais, c'est sûr que ça sera jamais... prononcé parce que il y a eu du scandale puis des gens qui revendiquaient aussi le fait que comme c'est pas parce qu'une robe est moins belle que l'équipe a moins de talent. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que ben, tu sais, c'est un discours qui est là depuis longtemps, puis je suis certaine que c'est le cas aussi en danse.
Oui, mais contrairement à vous, nous, c'est dans la grille de pointage dans plusieurs compétitions. Là. Les compétitions fonctionnent différemment, mais tu sais, souvent, il y a un 5 à 10 points accordés à la présentation, c'est-à-dire le costume, maquillage, etc. Fait que...
Non, c'est ça. Nous, c'est sous-entendu. Tu sais, il n'y a pas... les fiches techniques, c'est assez compliqué, mais tu sais, il n'y a pas directement un pointage pour le costume.
OK.
Ouais.
On parlait des Suprêmes de Saint-Léonard tantôt. Toi, j'ai fait mes recherches. Tu es dans l'équipe Évolution de Charlebourg.
T'es bon, Charles.
À quoi ça ressemble à peu près ton niveau comparé notamment aux Suprêmes?
On est loin.
OK, vous êtes loin.
Ouais, mais dans le fond, là, les niveaux, c'est quand même assez complexe. Fait que si j'essaie de te résumer ça... ça s'appelle Star, OK, quand les jeunes commencent. Okay. Fait que t'as comme Star 3, 4, 5, ça va jusqu'à 8. Puis ça, c'est vraiment des catégories comme 12 ans et moins, puis tout ça. Après ça, t'as comme deux branches. T'as une branche récréative, puis t'as une branche compétitive. Dans la branche compétitive, il y a novice, junior, puis senior. Puis dans le fond, les championnats du monde, il y a championnat junior, puis il y a les championnats seniors.
Okay.
Fait que ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis dans le récréatif, ben là, t'as la catégorie ouverte. Après ça, t'as du intermédiaire, puis t'as adulte 1 à 3. Moi, je suis dans le récréatif.
Okay.
Mais c'est aussi parce que la pandémie a été très dure pour le patinage synchronisé.
Okay.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup des patineurs qui étaient plus fragiles, mettons, qui avaient moins la passion, je dirais.
Ouais. Ou qui ont
décidé de lâcher. Oui, c'est ça. Il y en a que les blessures les ont rattrapés. Il y en a qui ont vieilli puis qui se sont dit « Ah,
Mais j'imagine aussi que pendant la pandémie, tu sais, quand t'es 16 à patiner sur la même glace, tu sais, j'imagine que bon, au niveau réglementation gouvernementale, il y a comme plus de restrictions. Alors que, ben moi, je pensais que t'allais dire peut-être qu'il y a plus de monde qui sont comme revenus en solo parce que...
Pas nécessairement. Il y en a que oui, mais d'autres qui ont vraiment juste complètement arrêté parce que, comme je te disais tantôt, c'est vraiment une discipline à part, le patinage synchronisé. Mais c'est ça, c'est que on a été très créatifs là, pendant la pandémie. Ouais. On avait des bâtons capitonnés, puis genre, on se tenait avec les bâtons. C'était vraiment quelque chose. C'était quelque chose. Puis, tu sais, on a même fait des entraînements Zoom aussi des fois. Mais ça a été le cas pour plusieurs... organisation. Là, j'ai des petits entraînements de conditionnement physique, mais c'est ça, pendant la pandémie, ça a été très compliqué. Fait que pour revenir à ma catégorie dans le fond de compétition, moi, je suis dans l'adulte en ce moment. Fait que c'est comme c'est vraiment une belle catégorie de compétition parce que c'est ouvert à tous les adultes de n'importe quel âge. On a une doyenne de 55 ans dans notre équipe.
Ah ouais?
Ouais. Puis c'est ça, dans l'adulte, là, de niveau 1 à 3, la différence, c'est que les éléments de compétition vont changer. Fait que moi, dans l'adulte 1, ben, c'est les éléments les plus complexes qu'on peut avoir dans l'adulte. Puis dans l'adulte 3, ben, ça va être très adapté au type de patineurs qui vont être là. Ça va être des patineurs qui commencent le sport puis qui veulent essayer goûter aux compétitions ou des personnes vraiment plus avancées en âge. Fait que, tu sais, moi, ma mère, elle a déjà compétitionné dans l'adulte 3 pour le plaisir de l'essayer, le faire puis le vivre. Puis c'est une belle opportunité.
Est-ce qu'elle a aimé ça?
Elle a adoré ça. Elle a fait 2 ans, mais tu sais, à un moment donné, elle a accroché ses patins. Elle n'a pas patiné longtemps, ma mère. Là.
Mais il y a beaucoup de débutants adultes d'un âge avancé qui peuvent se lancer dans l'adulte 3?
Absolument. Pour vrai, souvent, là, ce qui va arriver, c'est des gens qui vont avoir patiné dans leur jeunesse, qui vont vouloir reconnecter avec leurs racines. Fait que là, ils vont juste s'enrôler dans une équipe d'adulte 3. Puis c'est surprenant de voir à quel point il y a beaucoup d'hommes aussi.
Ouais.
Mais surtout, en fait, c'est une belle chose, je trouve, de mon sport, c'est que c'est ouvert à tout le monde. C'est sûr que c'est plus rare qu'on voit des hommes, mais tu sais, nous, à Évolution, on a un homme dans notre équipe.
Okay.
Puis moi, j'ai patiné avec toute ma vie, fait que tu sais, ça a été vraiment pas... c'est pas un choc pour moi de voir des hommes dans les équipes de patinage synchronisé, mais cette année, au championnat du monde, il y avait une équipe, je pense que c'était les Italiens, il y avait 4 hommes dans leur équipe, puis ça, c'est très, très rare. C'est rare qu'on voit ça, c'est une rareté, même, je dirais que j'ai jamais vu ça avant. Fait que... T'sais, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que ça existerait un jour des équipes de patinage synchronisé d'hommes?
Parce que là, c'est comme genre mixte, mais c'est comme surtout féminin.
Oui, majoritairement féminin.
Parce que les hommes performent avec les femmes, mais en même temps, si par exemple un jour ça devient une discipline olympique, ben là, ça va peut-être être plus essentiel de faire la distinction puis d'aller chercher justement plus d'hommes puis les rentrer. Parce que je sais qu'en solo puis en duo, il y en a quand même beaucoup d'hommes qui pratiquent le patinage artistique. Donc, j'imagine que ça va être un processus qui va se faire un peu comme tu le disais tantôt. T'sais, le monde, ben, les hommes vont plus se concentrer sur le patin artistique synchronisé, comme tu disais. Puis là, c'est justement de cette manière-là que la catégorie va se créer un peu.
Oui, mais en tout cas, ça reste à voir. Je pense que c'est vraiment un sport dominé par les femmes.
Oui, surtout.
Puis je pense que c'est un peu une fierté aussi là, en soi, parce que c'est vraiment... c'est très empowering, là, mettons qu'on utilise l'anglicisme, là, de voir juste des femmes dans ce domaine-là, puis c'est majoritairement coaché par des femmes aussi, là, fait que c'est beau avoir d'avoir une majorité, puis c'est ça. Mais c'est sûr que c'est une question qu'on se pose, là, les hommes, leur place dans notre sport, mais tout le monde est bienvenu, puis on accepte la différence malgré le fait qu'on se ressemble toutes. Là, là c'est dur de se différencier de loin, là.
Ouais. Tu as eu tes championnats régionaux dernièrement. Ça, tu me disais, c'est le fun que je vienne le 16 avril. Ça va être juste un peu après mes championnats régionaux. Comment ça s'est passé?
Hey, ça a vraiment bien été. Ça a été une saison difficile pour nous, justement, au niveau des résultats. Tu sais, en début d'année, on a super bien performé, mais on n'a pas eu les résultats techniques qu'on voulait. Fait que là, on a travaillé super fort. On a eu une compétition à Canada, en Ontario.
Okay.
Puis, il faut savoir que Patinage Canada, puis patinage... Ben, dans le fond, il y a Patinage Canada qui englobe Skate Ontario puis Skate Québec.
Okay.
Puis c'est comme différent un petit peu au niveau des organisations. Puis les compétitions se ressemblent, mais c'est pas tout le temps les mêmes jeux, c'est pas tout le temps les mêmes... En tout cas, c'est dur à expliquer comme ça, mais c'est que quand on est allé en Ontario, on a reçu un jugement vraiment différent de quand on est allé à Québec performer. Okay. Tu sais, on a eu une compétition à Laval juste avant notre compétition en Ontario. Puis on avait eu des bons scores, ça avait bien été, on est arrivé deuxième.
Okay.
Puis arrivé en Ontario, ben on a eu un élément invalide, puis ça, c'est ça coûte vraiment cher au niveau
c'est
du pointage.
Quoi,
dans le fond, c'est que les juges, ils regardaient leur règlement, puis selon leur vision de notre élément, comment c'était performé, ben ça comptait pas. Dans le fond, un élément, ça a une valeur de base qui peut être bonifiée par l'évaluation des juges.
Okay.
Mais dans ce qu'ils nous donnaient comme jugement, c'est que on avait même pas droit à la note de base de l'élément. L'élément, il comptait pas du tout. Ça nous a coûté cher, mais malgré ça, on a vraiment bien performé, puis on est arrivé quatrième. Fait que là, ben on s'est retrouvé les manches, puis on a travaillé vraiment fort. Puis là, aux championnats régionaux, on est arrivé deuxième.
Yeah!
Ouais, on a eu notre meilleur pointage de la saison aussi, fait que c'est vraiment le fun. C'est le fun de finir une saison comme ça aussi, là. C'est une chance qu'on a, là, parce que je pense qu'on aurait été quand même déçus, là, après une compétition avec un élément invalide. Comme ça, ça m'était jamais arrivé dans ma vie avant. Là.
Ouais, c'est un peu un élément controversé, j'imagine. Ça t'est jamais arrivé, j'imagine, t'as de l'expérience en patin, puis...
Non, c'est
pas
ça.
Quelque chose qu'on voit souvent. Là. C'est comme,
ça part du fait qu'à chaque année, pour essayer de brasser la sauce puis rendre ça intéressant, ben Patinage Canada change les règlements.
Okay.
Fait que là, mettons, là, une année, ils pourraient te dire, OK, cette année, les éléments, ça va être un cercle, une roue, un bloc de déplacement puis une intersection. Puis l'année d'après, ils pourraient te dire, OK, ben là, votre intersection doit être en forme de triangle. OK, là, votre intersection va être en...
Dans le fond, c'est des contraintes que vous devez inclure dans votre prestation.
Exact. Okay. Puis à chaque année, ça change. Fait que là, cette année, ça s'appelle l'élément qui déplace. Puis dans cet élément-là, il fallait qu'on fasse trois figures, deux à trois figures. Fait que là, nous, on faisait comme... On commençait en cercle. Après ça, ça devenait comme une roue. Fait que ça veut dire que le cercle, il se transforme en branche. Puis après ça, ben ça... je suis tout mêlée dans mon affaire. En tout cas, fait que c'est ça, on se refaisait des formations une après l'autre. Puis c'est la façon que c'était, dans le fond, faut que ça déplace sur 10 mètres. Fait que nous, comment ils voyaient le déplacement, ils voyaient des arrêts dans le déplacement. Fait qu'ils ont dit, OK, invalide.
Okay.
Fait que c'est ça. Ça a été une grosse déception. Ça fait mal vraiment beaucoup là, à l'orgueil. Là, parce que quand t'as bien réussi quelque chose au niveau de l'exécution, selon ce que tu crois qui est correct, mais que tu te fais dire que non, c'est fâchant. Fait que
ça,
là,
t'es pénalisé en points, j'imagine. Puis c'est pour ça que vous avez fini quatrième.
Ouais, c'est ça. Mais quand même, on était fiers d'être quatrième avec un élément invalide. Tu sais, comparé aux équipes qui avaient toutes leurs pointages.
Qui n'ont pas d'élément invalide puis qui terminent derrière vous quand même.
C'est ça. Fait que, ouais, c'était une belle fierté. Mais ça a été une très belle saison malgré tout. On a travaillé fort, puis ça a été beaucoup de résilience. Puis ça arrive souvent, je trouve, en passage synchronisé. Il y a eu vraiment des exemples, même en fait en patinage artistique tout court, il y a eu tellement d'exemples dernièrement. Par exemple, OK, il y a une Canadienne qui est arrivée championne du monde, elle s'appelle Diana Stelato Dudek, qui est en couple, patinage de couple avec Maxime Deschamps. Elle, elle a 40 ans.
OK.
Puis elle est championne du monde, puis tu sais, c'est très rare dans le sport là, des adultes avancés en âge. Puis elle, dans le fond, elle s'est blessée à une hanche. Quand elle était jeune, elle était championne junior de patinage artistique. Puis elle s'est blessée à une hanche, elle a pris une pause de 16 ans. Puis en 2016, elle a décidé, je recommence. Fait que là, elle s'est entraînée, elle a rencontré son partenaire, puis ils ont grimpé les échelons, ils ont été champions régionaux, canadiens longtemps. Puis cette année, ils ont battu des records, puis ça, c'est tellement beau à voir. Là.
C'est sûr, une histoire de persévérance puis de résilience comme ça, c'est
oui, c'est ça,
c'est
puis
beau.
Ça arrive tout le temps, là, puis ouais. En patinage synchronisé encore plus, l'histoire de la patineuse qui s'est coupée le tendon d'Achille que je vous ai raconté tantôt, elle, c'était au championnat du monde que ça y est arrivé.
Oh mon Dieu!
Ah ouais.
Fait qu'il a fallu qu'une autre fille prenne sa place, puis elle prenne sa place.
À la dernière minute.
À la dernière minute, elle a compétitionné, ça l'a super bien été. Puis aussi, cette année, les Suprêmes, ils ont une fille qui s'est blessée aussi. Je pense qu'elle s'est déchirée le tendon d'Achille, justement. Okay. C'est tout le baillon encore. De ça pète. Puis il paraît que c'est arrivé juste à la veille du programme long.
Est-ce que vous avez comme des remplaçantes?
Oui, c'est okay. Ça. Fait que, tu sais, souvent, mettons, là, dans les équipes seniors, ils ont jusqu'à 24 patineurs qui peuvent inscrire à une compétition, mais okay. Ils patinent à 16.
Ouais.
Fait que, tu sais, à 24 patineurs, t'as vraiment comme la chance d'avoir des patineurs qui sont là pour prendre la place s'il arrive un pépin comme ça. Fait
ça que leur dérange pas, eux, de s'entraîner toute l'année, mais de pas nécessairement compétitionner.
Ça, c'est vraiment
Est-ce qu'ils compétitionnent à un niveau inférieur quand même?
Non. Dans le fond, ils font partie à part entière de l'équipe, mais ils compétitionnent pas à toutes les compétitions. Puis t'as vraiment soulevé un bon point, Victoria. Ils sont là... Tu sais, ils savent, ça fait partie du sport. Tu sais, tu commences tout jeune, puis il y a des patineurs qui sont sur le banc. Puis c'est comme dans n'importe quelle autre discipline.
Ben moi, je fais directement le lien avec le hockey.
Oui,
t'as 23 joueurs par équipe, ben mettons dans la Ligue nationale, puis t'en habilles 20 par soir. Mm-hmm. T'en as toujours qui vont sauter leur tour. Là.
Mais ça doit quand même être difficile mentalement d'être si près du but, mais de pas pouvoir compétitionner nécessairement.
Oui, c'est ça, exactement. Puis... c'est sûr que c'est une frustration, mais en même temps, moi, ça m'a appris les meilleures leçons dans ma vie, là. Tu sais, j'ai pas été souvent sur le banc. Bon, j'ai
brag.
Cette chance-là.
C'est ça,
j'ai eu cette chance-là. Mais quand je l'ai été, ben, je me suis retroussé les manches pour pas l'être, puis j'ai travaillé fort. Mm-hmm. Puis c'est souvent ça un peu que les entraîneurs veulent enseigner.
Ça te pousse à être meilleur.
Ouais, c'est ça. Au niveau international, quand tu es un patineur senior, ça a peut-être même pas rapport. Des fois, c'est parce que tu viens d'arriver dans l'équipe. Mm-hmm. Des fois, c'est stratégique parce que les coachs, ils veulent ce groupe-là sur la glace. Ils l'ont pratiqué toute l'année. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être des petites choses qui font en sorte que tu n'es pas sur la glace au moment de la grosse compétition, mais ça fait partie du jeu. Puis... le patineur qui est sur le banc mérite sa médaille tout autant que n'importe quel autre membre de l'équipe. Il a été là, il a travaillé fort.
Il a autant pratiqué, sinon plus.
C'est ça, tu sais, fait que c'est dur au niveau du moral, c'est vraiment pas facile. Puis même pour un parent qui envoie son enfant dans ce sport-là, au début, là, c'est frustrant. Puis j'en ai vu là, des parents vraiment faire des grosses disputes auprès du club puis auprès des entraîneurs à cause de ces décisions-là. C'est mm-hmm. toujours crève-cœur, mais c'est ça. Ça fait partie du jeu, puis... moi, je pense que c'est très motivateur aussi. Là. Ça donne le goût d'être dans les lignes puis de patiner. Mm-hmm. Fait que...
ouais. C'est un élément pour se dépasser encore plus. Il y a un certain niveau de compétition pour essayer d'avoir sa place dans l'équipe. Mais c'est ça, c'est pas toujours le fun pour tout le monde, mais c'est une réalité, comme tu le mentionnes.
Ouais.
Je vois le temps passer, on va aller en pause publicitaire. On poursuit la discussion après la pause. Donc, restez là à Boisvert Radio. Je vous rappelle, on est là jusqu'à 22h.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Mes chéris, où sommes-nous?
Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, arts visuels et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chéri J'arrive sur zone de Chiz 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chéri J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi, de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
On Mukau Sitz.
J'entends quelque chose.
C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Huaronka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshim Rud Egin. la revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Unmukeosits. Unmukeosits, tous les dimanches à midi sur Cheese 94.3.
Va te prendre une autre bière, Jacques.
Il y a d'autres choses à faire dans la vie que de boire la bière, Éloi.
Ben non, il se passe jamais rien dans la vie, c'est full plate.
Hey, ça paraît que t'écoutes pas à l'antenne sur Cheese. Depuis que j'écoute ça, je connais non seulement toutes les nouveautés au Trident, mais aussi la moyenne au bâton de Mark Goodzelanek en 99, toutes les potins de la rue Saint-Jean, puis en plus, il y avait toutes sortes d'autres mondes, parlait plein d'autres affaires.
Ben coudon, c'est jeudi de 13h à 14h en plus.
Sur les ondes de Cheese, 94.3.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Cheese 94.3 avec Cédric.
Et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Chiz 94.3. Charles Boisvert au micro, accompagné ce soir de Marianne Tremblay et de Victoria Barry. Juste avant de poursuivre l'émission, juste dire que c'est un gros mardi soir dans la Ligue nationale de hockey et le Canadien est sur le point de gagner. Donc, il y a une victoire qui s'enligne là, de 4-3 contre les Red Wings de Détroit. Et c'est très important parce que c'est la course aux séries bat son plein. Et dans l'Est, c'est très, très intéressant à suivre. Donc, on vous tiendra au courant là, peut-être plus tard dans l'émission. Ou sinon, la semaine prochaine où le portrait là, sera de plus en plus clair. Je voulais, dans le fond, c'est très intéressant jusqu'à maintenant, on parle de patins artistiques synchronisés. Et si jamais vous avez manqué une partie de l'émission ou vous êtes arrivé justement pendant l'émission ou vous venez tout juste de vous connecter, d'ouvrir votre radio ou Chiz sur le web, ben de un, bienvenue. Et de deux, ben je vous invite à aller écouter l'émission au complet parce que c'est intéressant du début à la fin. c'est ça.
C'est sa propre émission est intéressante, tout le monde.
Ouais, exactement. Donc, vous pouvez aller écouter Boisvert Radio. Là. Les rediffusions vont être en ligne sur Spotify et sur Apple Podcasts. D'ici la fin de la semaine, probablement. Ça dépend là, de la station, quand est-ce qu'ils mettent les rediffusions en ligne. Et ben, pour accéder au lien, ben, vous pouvez également nous suivre là, sur Facebook et Instagram pour avoir notamment là, les invités, savoir les invités avant l'émission sur Facebook et sur Instagram, mais également ben, sur le Facebook, là, les liens vers les rediffusions qui vont être postés. On retourne au patin artistique synchronisé. Avant d'aller en pause, là, on parlait de tes compétitions. Puis moi, je me demandais, là, tu te lèves le matin. C'est une journée de compétition. Ta compétition, je sais pas, doit être en après-midi, en soirée. À quoi ça ressemble ta préparation pendant la journée?
Une très belle question, ça. Mais ça varie tout le temps. Oui. Ça varie
toujours
tout le temps. Dans le fond, les compétitions, dépendamment de comment sont structurées, du nombre d'événements dans une journée ou de comment ils vont construire la compétition, des fois, on peut patiner vraiment tôt le matin.
OK.
Ou on peut compétitionner vraiment tard le soir. Fait que ça dépend vraiment. Puis il y a des compétitions où on performe deux fois dans la journée.
OK.
Puis ça, dans le fond, c'est construit en fonction un petit peu. Ben, moi, je sais pas si c'est exactement ça, mais je trouve que ça fait rappel aux compétitions compétitives, le senior, junior. Mm-hmm. En fait, eux, ils ont deux performances, un programme court puis un programme long.
Ouais.
Fait que nous, on fait deux performances aussi, mais ils coupent notre note en deux. Parce qu'on a un seul programme quand on compétitionne récréatif. Fait que la première note est coupée en deux, puis okay. La deuxième note, c'est la note totale qui est additionnée avec la première note.
Avec la moitié de la première?
Ouais, ouais, okay. C'est ça. Puis dans le fond, il y a des compétitions qui se font sur une seule journée qu'on va compétitionner deux fois dans la journée. Fait que ça, c'est des énormes journées. C'est une fin de semaine en une journée. Fait que tu te réveilles matin, des fois à 5h, 6h, 7h. Tu fais ta préparation, tu compétitionnes, tu as une petite pause entre les deux performances, puis tu refais la même chose l'après-midi. Fait que comment ça fonctionne, c'est que le matin, on va se réveiller. Des fois, mettons, on va dire on est à l'hôtel. Fait que là, on va se faire 2 heures de préparation. Fait que là, ça, c'est cheveux, maquillage, vernis à ongles, boucle d'oreille.
Mais ça, comme tu le mentionnais tantôt, l'apparence compte pour beaucoup. Puis moi, je me disais en tête, en écrivant cette question-là, il doit avoir quand même beaucoup de temps qui est... Oui, vous préparez, vous échauffez en vue... j'imagine que bon, vous faites un plan de match, je sais pas, votre coach vous rappelle les chorégraphies à venir. Mais il y a aussi beaucoup de temps qui est mis, justement, comme tu le mentionnais, t'es aux cheveux, au maquillage et tout ce qui est apparence.
Puis tu sais, avec le temps, on se développe des techniques aussi. Tu sais, faire mes cheveux, moi, personnellement, ça me prend 2 minutes. Là. C'est plus long, okay. Parce que quand j'étais jeune, mais je savais pas trop. Là,
vraiment moins longtemps que Boisvert. Boisvert, c'est long.
Moi, faire mes cheveux, là, 2 heures minimum.
Fait que c'est ça. Puis... pour ce qui est du maquillage, ben on se divise la tâche. Fait que là, ben, okay. Toutes les maquilleuses ont une tâche. Fait que là, on va peut-être être 6 ou 7 maquilleuses. Il y en a une qui va faire le eyeshadow, l'autre qui va faire l'eyeliner.
Est-ce que vous avez des maquilleuses pour l'équipe ou c'est genre chaque membre de l'équipe va comme maquiller l'autre?
On est des membres de l'équipe autoproclamés maquilleuses. Okay. Moi, un jour, on m'a dit, toi, tu vas faire le eyeliner. Fait que là, ben,
c'est difficile faire un beau eyeliner.
C'est très difficile faire l'eyeliner. Fait que depuis, moi, je peinture les faces de tout le monde.
Wow, bravo.
Puis je suis vraiment bonne en eyeliner. Mais, fait que.
Brag.
Fait que c'est ça, non, la préparation, c'est quand même très long. Puis après ça, une fois que tout le monde est maquillé, coiffé, ben là, on va s'échauffer. Fait que là, c'est échauffement physique. On a une petite routine. T'sais, des fois, on commence avec une petite danse Zumba, super le fun. Après ça, on s'en va faire le programme sur pied. Fait que ça, dans le fond, c'est qu'on va danser notre numéro sans les patins, individuellement. Puis après ça, on va faire une visualisation. On ferme les yeux, on laisse jouer la musique. Puis tu peux être assis, debout, tu peux marcher, tu peux redanser le programme. Si tu veux, ça c'est comme chacun pour soi. Puis après ça, ben on se dirige vers le lieu de compétition. Souvent, on va aller faire une visualisation de la glace aussi. Fait que là, on va tous s'installer dans les estrades. Puis là, on va tracer avec notre doigt le programme qu'on s'apprête à faire. Fait que là, ben, tu commences au centre de la glace. C'est pour se faire des repères, dans le fond.
Ben
parce
oui,
que t'auras beau patiner 15 heures par semaine, ben c'est pas le cas pour moi. Mais t'arrives dans un nouvel environnement. C'est ça, chaque glace est différente. Les estrades de couleurs différentes. Fait que tu sais, c'est ça. On se fait des points de repère. Puis aussi, des fois, c'est que sur les glaces de hockey, il y a les lignes puis tout ça. Ben, nous, quand on arrive en compétition, des fois, il n'y a pas de ligne du tout.
Okay, ouais,
fait que là, les gens qui utilisent les lignes pour se repérer doivent se refaire des repères. Fait que la visualisation de la glace est super importante. Puis après ça, ben, on se dirige dans la chambre. Dans la chambre, on a 30 minutes. Puis c'est vraiment, vraiment sévère, les horaires. Il n'y a pas plus de temps.
Vous êtes
rodés
au quart de tour.
On est rodés au quart de tour. Puis des fois, on se fait dire de sortir plus tôt, plus tard. T'sais, des fois, ça peut être vraiment long, comme des fois, on peut être vraiment sur la presse. Fait que, t'sais, c'est sûr qu'on a toujours un 20 minutes là, solide là, pour s'habiller, mettre nos patins et tout ça. Nous aussi, d'habitude, notre gars dans l'équipe, il s'en va dans la salle de bain pour se changer. Ouais. Puis après ça, il vient
nous rejoindre. C'est comme l'inverse au hockey. Il y a des chambres de filles. Puis là,
C'est ça. Fait que lui, souvent, il a sa petite routine. Il s'en va mettre son petit maillot. Puis là, il vient nous rejoindre après ça. Puis dans le fond... une fois que c'est le temps d'aller patiner, ben là, on se fait un caucus d'équipe, un cri d'équipe, puis on se dit des petits mots inspirants, puis des affaires de main, parce qu'on est vraiment juste des filles. Puis c'est ça, fait que... Mais c'est vraiment, tu sais, c'est rodé, là. Tu sais, il n'y a pas de perte de temps. Puis des fois, il y a des retards, parce que là, après ça, les juges... Après les performances, les juges, ils regardent des reviews, puis là, ils regardent encore pour voir s'il y a des petits trucs techniques qui vont changer, ajuster, tout ça. Fait que des fois, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Dans ce temps-là, on dirait que ça relâche la pression parce que on sait plus ce qui nous arrive. Tu sais, on suit la vague. Fait sauf que quand on n'a pas beaucoup de temps puis qu'on est pressé, souvent, ça va faire comme un effet de tension. Fait que pour briser ça, moi, il y a une chose que j'aime vraiment beaucoup avant les compétitions. On a comme une petite période d'échauffement. On a 1 minute. Fait que là, on fait ce qu'on appelle un bloc d'échauffement. Fait qu'on est tous attachés ensemble. L'équipe, on se tient là, attachés. C'est comme ça qu'on parle, là, nous, en patinage synchro. Ouais, c'est ça. On se dit qu'on est attachés, mais on se tient. Puis là, on fait comme une petite performance. C'est pas une performance, mais dans le fond, c'est ça. C'est un échauffement. Pour sentir la glace, pour se sentir dans les lignes, pour se sentir entre les filles. Puis ça, ça aide tout le temps à me relaxer. Moi, je rentre dans mes jambes. Je prends le temps de respirer. Puis après ça, on peut sentir la glace. Puis si on dépasse cette minute là d'entraînement, ils partent la musique.
OK.
Fait que ça, c'est quand même super stressant. Fait que là, dans le fond, t'as 1 minute, tu dois aller te placer. Si
comme
t'es pas
techniquement,
placé,
c'est moins d'une minute parce qu'après, mettons, à partir de la 50e seconde, vous devez vous dire, bon, ben là, il faut se placer pour être prête quand la musique commence.
Fait qu'on n'a pas besoin de compter. Fait que, tu sais, comme mettons, là, on embarque sur la glace, puis là, eux autres, ils font leurs affaires, puis là, éventuellement, ils nous annoncent. Fait que là, on sait qu'il nous reste quelques secondes avant qu'ils partent la musique. Fait que là, une fois qu'on est annoncé, on va se placer. Puis là, il y a une fille qui fait comme un mouvement pour dire, OK, on est prête, puis la musique part. Okay. Puis c'est une drôle d'anecdote, mais mes championnats régionaux, ça, on a tellement eu des bugs techniques, des technicalités terrifiantes. Oui, ça arrive, mais c'est quand même rare. Mais là, cette année, nous, on dirait que tout nous arrivait. Fait que là, on est arrivé, on s'est placé. Puis là, juste avant de partir la musique, d'habitude, ils font comme évolution. Puis là, ils se sont trompés, ils ont dit une autre équipe.
Oh, ça, ça déstabilise.
Fait que là, nous autres, on était toutes de même. On était genre, what the fuck? Fait que là, on était comme, OK, super. Fait que là, ben, personne, parce d'habitude, quand ils disent notre nom, on lève nos bras pour se présenter. Mais ben, là, personne n'a levé ses bras. Là, on a regardé le présentateur, on était comme, qu'est-ce qu'il fait? Il était sur le panel des juges. Il était assis à la table des juges. Fait que là, il a comme fait, ah, il s'est gratté le front. Puis là, il a comme fait, évolution. Puis là, on était vraiment crampé. Puis l'autre journée, ben, ils ont parti notre musique, puis on n'entendait tellement rien. Fait que là, personne n'a parti. Puis là, la musique était déjà comme 10 secondes plus... Ben, 10 secondes avant qu'on n'était vraiment pas timé. Fait que là, ben, dans ce temps-là, la capitaine de l'équipe, elle s'en va voir l'arbitre.
Vous avez pu, avez-vous pu le reprendre?
Ouais, c'est okay. Parce que là, personne... Oh, ouais. C'était comme... Toutes les gens dans la foule étaient comme... OK, il fallait qu'on retienne notre souffle pour entendre de quoi, là. Fait que, ils ont reparti notre musique, mais tu sais, c'est stressant, des choses de même quand ça arrive, là, ouais. Surtout quand tu veux que ça aille bien puis que tu veux performer.
Ça te déstabilise, là. Tu le visualises d'une telle manière, mais là, justement, comme tu dis, il y a des technicalités qui s'en viennent.
Oui, ça, c'est cauchemar, là, quand c'est pas la bonne musique. Là. Puis tu sais, on en blague tout le temps. Avant les compétitions, on est comme, ah, OK, qui va aller voir l'arbitre? Puis, tu sais, quand t'as pas de capitaine, c'est comme une blague, mais là, quand ça arrive sur le moment, t'es comme, oh non, je peux pas croire que ça vient d'arriver. C'est un peu gênant pour les gens qui organisent, mais ça arrive. Fait que, je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça, mais.
Ben, on parlait de ta routine lors des journées de compétition.
Ben, c'est ça. Fait qu'une fois qu'on compétitionne, il reste une dernière étape. Là. Une fois qu'on compétitionne, après ça, on débarque de la glace puis on va dans la zone qui s'appelle le kiss and cry. Puis ça, dans le fond, c'est là qu'on reçoit la note. Fait que nous, c'est comme instantané.
Ouais,
moi, c'est ça que j'aime de mon sport. Ouais. Versus, tu sais, mettons, les sports de comme le hockey, là, c'est comme tout un gros build-up jusqu'à la fin. Ben nous, c'est on performe, on donne tout ce qu'on a puis on reçoit la note tout de suite après. Mm. Puis après ça, ben ça se joue dans le classement.
Ouais.
Mais c'est ça, le kiss and cry, ben c'est ça, il annonce la note. Puis
tout le monde s'embrasse et pleure.
Ben c'est ça, c'est des becs, des pleurs, des fois c'est des pleurs de joie, des pleurs de frustration, mais tu sais, le meilleur, c'est comme le moment culminant d'une saison, c'est là que tu le vis, tu sais.
Ouais. On dirait que je t'imagine pas pleurer, même si t'es contente. T'as-tu déjà pleuré pour une victoire ou une défaite?
Ben, un petit peu comme au jeu de la communication.
Ah oui, ah oui, on s'en souvient.
Non, mais en fait, non, moi, je le vis à l'intérieur. Là. Souvent, ce qui va arriver, c'est que des fois, c'est quand même long avant qu'il nomme les notes. Fait que des fois, ça apparaît sur l'écran avant qu'il nomme la note. Fait que moi, quand je suis fâchée, personnellement, des fois, je suis pas bon joueur. Des fois, je m'en vais dans la chambre tout de suite. Genre, j'attends pas qu'il ait fini de dire les notes. Puis
quand t'es pas d'accord avec les juges.
Non, c'est ça. Mais des fois, ça arrive. Mais tu sais, souvent, tu gardes la tête haute. Puis
mais c'est un sport jugé au final. Faut tout le temps se rappeler ça. Là,
oui. Puis c'est prendre le commentaire.
C'est 100% subjectif de la part des juges.
Ouais. Mais pas 100%.
Ben,
mais...
les juges ont une certaine expertise qui leur confère justement ce droit de donner les notes.
Mais
ça reste que c'est leur opinion puis leur vision de votre danse.
C'est ça, mais tu sais, c'est tout le temps sujet de débat parce que il y a les juges qui donnent vraiment leur appréciation, mais il y a aussi des gens qu'on appelle les calleurs techniques.
Okay.
Donc, eux, ils disent OK, élément valide ou non.
Okay.
Fait que tu sais, ça sépare un petit peu ça donne un aspect un peu plus technique, concret, d'avoir des calleurs techniques. Eux autres sont là pour vraiment approuver ou refuser l'élément. Mais c'est ça, les juges sont vraiment là pour bonifier la note artistique. Fait que eux autres, c'est très subjectif. Là. C'est est-ce que, tu sais, mettons, une juge qui s'appelle Nancy. Est-ce que Nancy, elle aime ça les pieds pointés? Ben là, elle va regarder juste les pieds pointés, mais est-ce que Alexandre, le juge, lui, il préfère que les doigts soient placés d'une façon, tu sais, fait que c'est comme vraiment... C'est là le subjectif un petit peu plus.
Les juges ont chacun leur touch.
Mais les couleurs techniques, eux, c'est vraiment comme, OK, est-ce que le cercle est rond? Oui, OK, ça passe.
OK.
Fait que c'est ça.
Je vois le temps passer. Il reste à peu près une quinzaine de minutes avant la fin de l'émission. Donc, est-ce qu'on switch à la danse?
Hey, mais moi, je veux tout savoir de la danse.
Excellent. Donc, comme je vous ai mentionné plus tôt dans l'émission, Victoria Barry est une danseuse hip-hop qui s'est qualifiée là, pour les mondiaux. Les mondiaux de hip-hop, c'est une semaine à Phoenix, en Arizona, au mois d'août. 3000 danseurs venant de 55 pays. C'est un gros événement quand même. Comment t'as fait pour te qualifier, pour te rendre là?
Charles... Quand je dis que c'est mon rêve de petite fille, là, me rendre là-bas, là, vous avez
pas
idée.
C'était pas aller à Boisvert Radio?
non, malheureusement, aller en Arizona pour les championnats mondiaux, c'est juste au-dessus de Boisvert Radio. Pas beaucoup, là, la compétition est féroce. Mais non, c'est vraiment mon rêve de petite fille. Puis n'importe qui fait de la danse hip-hop, même pas espère de se rendre là parce que c'est très inaccessible, là, se rendre là. Ouais. Puis moi, je me suis rendue là par pure chance, là, parce que à la base, j'étais même pas dans l'équipe qui faisait les nationaux.
Okay.
Parce que, comme je vous dis, moi, j'ai toujours pensé que c'était un rêve inaccessible. Puis,
c'est souvent ça qu'on pense, hein?
On sous-estime avant beaucoup. Qu'on le réalise. Quand on grandit dans le sport compétitif, on sous-estime beaucoup parce qu'on voit le niveau des autres équipes. Puis, tu sais, on est constamment confrontée à ça. Donc, j'ai décidé de pas participer à l'équipe des nationaux, mais comme cette équipe-là sont dans la catégorie méga coup, ça veut dire qu'on peut avoir jusqu'à 40 danseurs. Mmh. Donc là, ils se sont qualifiés aux nationaux, puis ils m'ont proposé de rejoindre l'équipe pour les mondiaux. Alors,
ça, là, ça serait-tu comparable? Il y a des vidéos qui ont été vraiment populaires. Là. C'est les Kings Dancers, je pense, quelque chose comme ça.
Oui.
Ils sont une grosse
gang. Ils viennent
gang,
de l'Inde, là. Ouais, ils ont fait...
Ils sont super synchronisés, c'est vraiment cool.
Ben, ceux-là ont déjà fait les championnats en Arizona. T'sais, toutes les grosses troupes de hip-hop ont déjà mis le pied sur cette scène-là. C'est vraiment la plus grosse scène. On compare ça aux Olympiques. Là. C'est les Olympiques de la danse hip-hop. Ah,
c'est toujours à la même place?
Oui, ben, c'était à Las Vegas pendant un petit bout.
Okay.
Puis depuis quelques années, c'est rendu en Arizona. Là. Fait que j'ai bien, bien hâte, très excitant. Mais c'est beaucoup de travail à venir parce que moi, j'avais accroché mes souliers pendant la pandémie.
Nous, on dit accrocher nos patins.
C'est cute. mais c'est ça. T'sais, moi, je faisais de la danse compétitive. J'ai fait ça toute ma vie. Puis quand la pandémie a frappé... Ça a comme à donner qu'on était tous rendus à aller à l'université. Puis le 2 ans de pause a comme fait, bon, ben, tu sais, on va arrêter la compétition. Mais moi, j'ai toujours continué à enseigner. Puis je me suis dit, bon, ben, c'est rendu mon... c'est rendu ce que je fais. Tu sais, je vais juste transmettre ma passion. Mais là, je trouve ça le fun parce que j'avais pas eu une espèce de closure.
Ouais.
Si je peux me permettre l'anglicisme. Puis là, je vais pouvoir faire une dernière compétition mondiale pour vraiment fermer ce chapitre-là de ma vie qui a été vraiment important pour mon développement et tout. Là, fait que... C'est juste parfait. On dirait que c'est un signe de l'univers là, que je puisse participer à ça. Là.
Absolument.
C'est vraiment incroyable. Puis comme tu le mentionnais, justement, là, tes prochaines semaines, prochains mois, ça doit être gros en termes de préparation. Là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu disais que ça faisait depuis la pandémie que tu n'avais pas toi-même dansé. Comment, justement, tu vas te repréparer pour cette compétition-là?
Non, exact, parce que c'est une chose... Ben, je dansais un peu dans mon temps libre pour le plaisir, mais c'est pas
Tu veux pas en enseignant, c'est sûr que ça vient avec... tu dois faire des démonstrations et
exact,
tout.
Exact. Mais c'est pas du tout la même chose que danser compétitivement. Ouais, donc vraiment. Là, c'est vraiment... Tu sais, c'est un autre niveau de pratique. Il va falloir que je m'impose. Puis c'est aussi... il va falloir que je m'améliore physiquement aussi parce que ça va être trois... Tu sais, les chorés sont 3 minutes 30, 4 minutes. Mais
c'est
d'intensité
long,
maximale.
C'est sûr, là, les hip-hop, c'est pas... C'est pas genre tu prends une pause puis ensuite tu tournes. Non, c'est intense.
C'est intense tout au long du numéro. Puis je pense pas que les gens y réalisent. Je sais pas si toi t'as déjà eu ça. Là. La danse c'est pas un sport ou le patinage c'est pas un sport. Là. On l'entend souvent, mais je vous dis là que les meilleurs athlètes du monde entier auraient de la difficulté à faire un cours de danse de A à Z parce que tous les muscles du corps sont sollicités. Là.
Oui.
T'sais, c'est vraiment un contrôle du corps puis une force que ça prend là pour.
Même ta langue.
Même ma langue?
Ben, la langue, c'est un muscle, non?
La langue, c'est un des muscles.
C'est un des muscles les plus puissants.
Toujours engagé.
Puis là, quand tu danses du hip-hop, en tout cas...
Hey, mais en hip-hop, là, des fois, il doit y avoir des langues sorties. Là.
Ben oui, c'est
oui
sûr,
effectivement,
là,
effectivement.
Des arrêts sur image, là, tu dois avoir des faces assez drôles des fois.
C'est ça, j'ai jamais eu une belle photo de moi là, qui danse. Jamais. Toujours c'est comme un running gag dans
ma gang.
Mais
moi, je veux savoir, là, les mix de musique en danse, ce sont assez impressionnants souvent. Là.
Oui.
Est-ce que vous avez comme des banques musicales? Est-ce que, genre, c'est quoi le processus de choix des musiques?
Ben, c'est un peu comme quand tu parlais qu'il y avait des maquilleuses là, qui s'auto-imposaient. Nous, on a comme des membres de la troupe qui sont très bonnes en mix.
OK.
Ah ouais?
Puis, c'est eux qui se chargent de faire les mix ou c'est les coachs. Mais, tu sais, on n'a pas de professionnel ou de DJ ou quoi que ce soit qui fait nos mix. Là, mais c'est vraiment, tu sais, souvent, c'est juste de mettre plusieurs chansons d'un bout à l'autre pour faire un bon numéro.
Ah, puis il n'y a pas de style choisi.
Ça doit souvent être des musiques hip-hop, rap.
T'as raison, Charles.
Un peu peut-être de rock, des fois, de batterie ou...
Des fois, oui. Je vous dirais que ça dépend des époques. Là. Il y a eu une époque où c'était comme tout le monde dansait sur du gros métal. Je sais pas pourquoi, mais c'était la mode. Là, c'est plus revenu à la base. C'est à la base, la danse hip-hop, ça découle de la musique hip-hop.
Ben, c'est ça.
Ça découle des rues.
C'est quand
ça
même une distinction, t'sais. entre la danse et la musique hip-hop, c'est pas exactement... Tu danses pas toujours nécessairement sur du Drake puis du loud ou je sais pas, moi.
Non, c'est ça. Il y a pas de restriction au niveau de la musique. On peut danser sur un peu n'importe quel style, mais ouais. Par exemple, pour les championnats mondiaux, c'est un peu plus sévère. On doit vraiment comme représenter le style, puis ça doit être vraiment authentique à la base du style, mais il y a pas de restriction en tant que tel.
Mais ce que je voulais dire tantôt par rapport au style, en fait, c'est surtout plus... est-ce que vous avez comme une thématique pour les costumes ou tout ça, ou vous y allez avec le choix des chansons?
C'est vraiment libre. C'est vraiment libre au choix. Là. Puis comme je vous dis, il y a des compétitions qui ont des... C'est ça qui est difficile avec la danse, c'est que chaque compétition est jugée différemment. Donc, c'est très difficile de se préparer. Puis des fois, t'arrives à une compétition, tu finis dernier. Puis des fois, t'arrives à une autre compétition, puis t'arrives premier. C'est vraiment... c'est un peu le bout qui me tannait vers la fin de ma carrière de compétition. C'est que j'étais comme tannée du caractère imprévisible. Mais les championnats mondiaux, c'est vraiment jugé, c'est vraiment standardisé. Il y a comme 12 juges de 12 pays différents qui ont des critères très sévères, des déductions à chaque exemple qu'il y a une perte d'équilibre. Tu sais, c'est vraiment... Fait que c'est pour ça que c'est une des seules compétitions auxquelles le classement est toujours logique. Puis je suis toujours d'accord avec le classement, mais les autres compétitions, souvent, il y a matière à débat.
Là. Fait que vos chutes sont pénalisées aussi en danse.
Oui, ça peut même faire la différence entre la deuxième et la dernière place, là, des fois.
Ouais.
Quand c'est très serré dans le pointage.
Mais surtout au niveau mondial, international.
Chaque erreur compte.
C'est ça. Mm-hmm. Ah, c'est intéressant, parce que nous, au patin, dès qu'il y a une chute, c'est pas critique sur une performance. Mais, tu sais, c'est comme moins un point, puis ça coûte cher.
Exact.
Ça affecte la note générale de l'élément. Puis
tu veux pas être la fille qui tombe,
non,
puis qui fait perdre ton équipe. Je pense que c'est la pire peur de n'importe qui, parce que, tu sais, c'est un sport de groupe, puis c'est un sport de famille, puis tu veux même pas gagner pour toi-même, mais tu veux gagner pour les autres à côté de toi aussi.
Wow.
Donc, tu sais, moi, je suis toujours stressée. Je suis toujours stressée, justement, pas parce que moi, je veux gagner, mais parce que je veux que mes coéquipiers gagnent. C'est souvent ça. Puis c'était comme ça au jeu de la com. Tu t'en souviens?
Ah, c'est hot. Là-bas, comme je le disais tantôt, c'est une semaine en Arizona. À quoi ça va ressembler l'expérience là-bas? Est-ce que vous avez un genre d'hôtel qui est comme un village olympique? Comment ça se passe?
Oui, on est tous dans le même hôtel. Toutes les troupes. Quand je vous dis que tous les pays, pratiquement, là, c'est japonais, coréen, tout le monde va être là.
Je regardais dans le coin de l'Asie, ils sont bons. Hein? Je regardais les derniers gagnants. Là, c'est pas mal Philippines, Thaïlande, Japon qui gagnent beaucoup. Là.
En Asie,
le K-pop.
Oui, je vous dirais Asie, Nouvelle-Zélande, Canada, ça dépend des années, mais on est quand même bon. Puis surprenamment, les États-Unis, d'où la danse hip-hop provient, performent pas si bien que ça aux mondiaux. Okay. Mais je pense parce que les danseurs là-bas ont des opportunités professionnelles pour danser avec des artistes, etc., au lieu de participer aux mondiaux. Donc, je pense que ça pourrait expliquer. Mais non, en Asie, ils sont extrêmement forts. Puis les Japonais, là, c'est vraiment quelque chose à voir. Là. C'est un synchronisme là, incroyable.
C'est un autre niveau.
Puis bref, c'est ça, on va tous être dans le même hôtel. Puis c'est une semaine, donc il y a trois étapes. Il y a les préliminaires.
Okay.
Après ça, ils choisissent les 20 meilleures équipes qui s'en vont aux semi-finales. Puis après ça, les finales, c'est les 10 meilleures équipes. Okay. Donc,
dans le fond, pour toi, ça va être trois prestations. Si mettons vous vous rendez en finale, ça va être trois prestations différentes.
Mettons, là, si je vous dirais que je vais là avec des attentes réalistes, là, dans le sens que c'est les meilleures équipes du monde. T'sais, moi, si je me rends aux semi-finales, je vais être super contente. Là, je veux dire, on va tout donner, on va se donner au maximum, mais on va vraiment là pour l'expérience puis pour participer. Là, on s'attend pas à avoir la médaille d'or nécessairement. Là.
Mais j'imagine que même si vous êtes éliminé, mettons au préliminaire, vous allez rester puis assister aux autres compétitions.
Oui,
là,
exact.
Tu vas profiter de ta semaine au complet.
Oui, oui, exact. C'est sûr qu'on va rester là. Puis aussi, il y a des ateliers, il y a des battles aussi de danse. Il y a il y a plein d'affaires tripantes. Là,
je sais pas si c'est le cas pour toi en danse, là, mais nous, en synchro, là, souvent, regarder la compétition, ça fait partie de l'expérience, puis c'est tellement le fun.
Ah, tellement.
Mettons, quand je patinais dans des niveaux un petit peu plus compétitifs, on avait des flash mobs, on dansait dans les estrades, puis c'est comme des tellement bons souvenirs. Là.
C'est comme des communautés que même si t'es en compétition, tu te comprends parce que tu partages la même passion, puis t'as un respect pour les meilleures troupes parce que tu sais ce que ça prend pour être à ce niveau-là. Fait que tu sais, c'est le fun toujours de voir l'ambiance là-bas, puis tout le monde s'encourage, puis bon, c'est pas toujours... cette utopie-là, mais mais tu sais, c'est souvent tout le monde s'encourage, puis c'est vraiment le fun. Exactement, une des meilleures parties, c'est de regarder les autres,
d'admirer aussi le talent.
Oui, carrément là. Puis tu sais, moi, ça me stresse pas là. Moi, ça fait juste comme me craquer là. Voir des gens bons, c'est comme ça te craque.
Tu veux être meilleur qu'eux autres, puis let's go.
Ouais, exact.
je vais te poser la même question que j'ai posée à Marianne tantôt. Tu te lèves le matin, c'est une journée de compétition. Ça ressemble à quoi ta routine?
C'est un peu comme Marianne, je dirais. Là. Ça ressemble vraiment beaucoup parce que l'heure de passage est différente. T'sais, j'ai déjà dû compétitionner à 9h du matin. Là.
C'est tellement rough. Là.
C'est tellement tôt parce que, comme Marianne expliquait, il y a plusieurs heures de préparation ouais. avant. Fait que, tu sais, il faut genre se lever. Puis, tu sais, des fois, les compétitions sont à Montréal. Ouais. Alors, on se lève à 3-4 heures du matin, on fait la route, on arrive là-bas, on se prépare. C'est ça. Puis, je dirais que ça ressemble pas mal à Marianne. Moi, j'ai pas vraiment de rituel. Là. Je suis pas comme
ah,
ça.
T'es pas superstitieuse?
Non, je suis pas superstitieuse. Ben, quoique, on se donne toujours des câlins, chaque personne avant d'entrer sur la scène. C'est un peu cute. Là.
Oh. Oui, mais c'est un cute rituel. Là.
Mais c'est comme un partage d'énergie, tu sais, c'est ouais. comme...
Je te donne mon énergie.
Fait que t'es pas le genre à mettre ton soulier gauche en premier.
Non, ouais, non c'est hein. ça. Toi, t'es-tu comme ça, Marianne?
Je mets tout le temps mon patin gauche.
T'es-tu sérieuse?
En premier, c'est même
puis,
pas des blagues.
Qu'est-ce qui se passe si tu mets ton doigt en premier?
Ben, ça, c'est comme bizarre. Pour vrai, je le sens.
Tu ressens un malaise.
C'est dans ta tête. Moi, je crois pas à ça.
Non, je te jure.
Moi, je crois pas à ça.
On embrasse la glace à notre dernière pratique avant de partir en compétition aussi.
Ouais. OK, mais tu sais, on s'entend que c'est pas ça qui va te faire gagner non. ou perdre.
Toi, avec t'embrasses un plancher avant.
Arc, imagine!
Hey, non, les planchers sont tellement sales en plus.
Non, la glace, c'est sale.
Ben, un peu moins, j'imagine. Ouais. Il y a moins de sueur parce qu'il fait froid. Dans les studios, des fois, là, ça devient chaud, chaud, chaud. Là.
Ah ouais.
C'est comme un sauna.
C'est vrai, c'est clair.
Yes. Le temps avance, là, j'ai envie de te lancer peut-être sur une dernière affaire. Là, en maximum 30 secondes, OK? Le breakdance fait son entrée aux Jeux olympiques. À quel point ça a comme un impact sur la danse hip-hop, qui est quand même deux affaires qui se ressemblent, mais qui doivent avoir des différences.
Le breakdance est est vraiment complémentaire au hip-hop. Dans le hip-hop, il y en a beaucoup qui font du breakdance dans leur numéro hip-hop.
C'est ça.
Mais oui, moi... Là,
le breakdance, c'est pas le hip-hop, mais dans le hip-hop, il y a le breakdance.
Exactement. C'est exactement ça, Charles. Mais moi, j'aimerais beaucoup ça que cette discipline-là entre aux Jeux olympiques, parce que le breakdance, c'est extrêmement, extrêmement physique, encore plus que la danse, parce que je veux dire, c'est des acrobaties, c'est des tours à la tête.
Ben oui.
Des backflips.
Je pense que ça aurait un impact sur la danse au niveau juste de la notoriété, parce que, tu sais, c'est connu, la danse, mais justement, comme je disais tantôt, je pense pas que c'est reconnu en tant que sport. Je pense que c'est considéré comme un art. Mais moi, je vois vraiment ça comme une jonction entre la jonction parfaite entre l'art et le sport, c'est la danse, selon moi, là.
Yeah.
Donc, je pense que ça pourrait aider justement au niveau de la notoriété, d'avoir un style de danse aux Olympiques. Je sais pas où en sont les discussions à ce niveau-là, mais...
Pour le breakdance?
Ouais.
C'est fait, ça va être à Paris cet été.
Oh mon Dieu! Boisvert radio, plus informé que moi.
Ben je connais mes disciplines.
Tu connais ton sport,
yes.
Charles.
Donc ça, c'est breakdance, en fond, ça va être à Paris cet été, au jeu.
Oui, pour la première fois,
ouais,
OK.
Pour la première fois ever. Là, on a un Canadien qui s'appelle Philip Kim qui risque de bien performer, là, qui est comme vice-champion mondial.
Let's go, Phil!
Ça va être très intéressant à suivre.
Je vais regarder ça avec attention.
Si je pense que c'est en même temps que les mondiaux des hip-hop, par contre.
Les redresses.
Mais en tout cas.
Ils rediffuseront.
Moi, j'ai hâte de voir Victo
exactement.
Break.
Oui,
Victo
ça va être en diffusion, là, les championnats mondiaux sur Internet. Fait que,
Je vous enverrai.
Je
vous invite à aller écouter ça en grand nombre. Marianne, Victoria, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venue à Boisvert Radio ce soir. Pour vrai, j'espère que justement le public à la maison s'intéressera maintenant davantage au parterre artistique synchronisé et à la danse hip-hop. Vous avez deux disciplines sportives qui sont super intéressantes et que j'espère, cher public, là, vous l'avoir fait découvrir.
Merci, Charles.
Merci, Charles.
En terminant, j'aimerais ça changer un peu ce que j'ai dit tantôt parce que j'ai dit que le Canadien allait gagner, mais il y a eu un but à 5 secondes de la fin du match. Les Red Wings ont créé l'égalité et ont ensuite gagné en tir de barrage. Donc, le Canadien s'incline en tir de barrage au Centre Bell pour son dernier match de la saison. Donc, voilà, je voulais corriger le tir là en cette fin d'émission. Donc, sur ça, cher public, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre là, sur Facebook, sur Instagram, sur Spotify et sur Apple Podcasts. Et bien, sur ça, je vous laisse une excellente fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine émission à Boisvert Radio. Au revoir.